Bulletin que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Comment, en Europe, résoudre le passé et déverrouiller l'avenir? Les mémoires européennes sont-elles la somme des mémoires nationales? Les Européens partagent-ils une communauté de destin? Une centaine d'historiens, de politologues, de philosophes, de linguistes, européens ou non, ont tenté de répondre en 1400 pages et près de 150 éclairages à ces questions et à bien d'autres. Et cela donne Europa, notre histoire aux éditions des Arènes, un ouvrage magistral qui, je pense, fera date. Guerre, génocide, nazisme, totalitarisme, les souvenirs communs des Européens sont surtout négatifs. Mais pourquoi placer l'Europe sous le signe du trauma plutôt que sous celui des valeurs et des croyances? Car notre histoire est aussi celle des Lumières, des droits de l'homme, du modèle social. C'est le signe d'un continent qui a déployé une incroyable capacité à faire la paix. Quelle mémoire commune, et je le mets au pluriel, pour quelle histoire en partage? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Thomas Serrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Institut d'études européennes à l'Université Paris 8 de Vincennes-Saint-Denis. Vous êtes aussi professeur invité à l'Université Viadrina de Francfort-sur-l'Oder, donc à la frontière avec la Pologne. Et vous êtes le co-directeur d'Europa Notre Histoire. On va en parler pendant toute cette heure. Jakob Weil, bonjour.
Bien, guten Tag.
Guten Tag. Vous êtes professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po Paris et allemand. On ne peut plus le cacher à nos auditeurs. Et puis à Bruxelles, nous rejoignons Valérie Rozou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes belge, politologue et philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain, donc merci d'être en ligne de Bruxelles. Thomas Serrier, une première question qui s'impose, comment vient-on un jour à se dire, tiens, je vais écrire une histoire de l'Europe, un projet très ambitieux et donc aussi forcément un peu fou, l'idée vient en se rasant, parce que souvent il y a beaucoup d'idées qui viennent en se rasant, pour les hommes en tout cas.
Non, c'est pas une idée qui nous est venue en nous rasant ou en me rasant. J'emploie tout de suite le nous,
oui,
c'est notre histoire, parce que c'est un projet très très collectif dès le départ, qui a été aussi conçu comme un projet collectif dès le départ et qui s'est largement inspiré de gros projets collectifs qui existent depuis une trentaine d'années sous le signe des lieux de mémoire, les lieux de mémoire pour la France de Pierre Nora. Dans les années 90-2000, plusieurs adaptations, Luoghi della Memoria en Italie, les Deutsche Erinnerungsorte, dont Étienne François, le co-directeur d'Europa, Notre Histoire, avait été le co-éditeur à l'époque en Allemagne, etc., etc. Donc plusieurs gros collectifs comme ça, qui parlaient de leur sujet, histoire de la France, histoire de l'Italie, histoire de l'Allemagne, histoire de l'Autriche, mais en présentant un kaléidoscope, un visage aux mille facettes. Et nous avions envie de proposer un petit peu la même chose et de nous lancer le défi. Peut-on adapter ce modèle à une histoire européenne? Donc il fallait absolument que ce soit tout de suite un projet collectif à plusieurs voix.
L'histoire, on peut l'écrire via la chronologie, en s'appuyant sur les guerres, sur les conflits, les révolutions. Ça n'a pas été votre choix.
Oui, on a réfléchi à la manière dont l'histoire de l'Europe est écrite et dont la manière dont nous voulions la réécrire ou y repenser. Et effectivement, c'était en partant de ce qui nous parle aujourd'hui, à nous, collectif d'auteurs, mais effectivement aussi et surtout, principalement, aux Européens. Donc nous sommes partis d'une manière régressive, plutôt du patrimoine, des usages du passé, de ce qui est actualisé et présent dans nos pratiques actuelles. Pour, à partir de ces éléments très très présents, mais venant du passé, issus du passé, hérités du passé, réfléchir à la manière dont ils avaient été transmis, tout en étant retravaillés, tout en étant réadaptés à travers l'histoire.
Et à la fin, Jakob Weil, ça donne 1400 pages, un certain poids, plus de 2 kilos, hein, 150 entrées, je l'ai déjà dit, qui sont autant de petites réflexions et de petites histoires qui expliquent la grande histoire par une centaine de contributeurs qui ont été européens ou non. Et quand je dis européens, des Allemands, des Belges, des Italiens, des Portugais, des Anglais et des non-européens.
Oui, justement, cette partie, disons...
plus large, cette ouverture vers l'extra-européen est vraiment un point particulièrement important dans les livres. C'est la troisième partie y est consacrée et on a décidé de faire cela parce que il nous semble évident qu'on peut pas parler de l'histoire de l'Europe et de ses mémoires que avec un regard de l'intérieur.
C'est-à-dire entre Européens.
Entre Européens, parce que cette histoire européenne n'appartient pas uniquement aux Européens ou à ceux qui se définissent ainsi, mais a marqué l'histoire du monde. Et donc aussi, on a voulu intégrer ces regards de l'extérieur parce que tout simplement, et c'est une opération assez facile, quand on a l'occasion de voyager hors de l'Europe, c'est à ce moment-là qu'on se découvre européen. Et donc, un peu de la même manière, on a fait appel à nos collègues non européens pour nous dire aussi comment eux regardent cet héritage européen qui fait partie de leur propre héritage aussi. On a par exemple un article très intéressant de notre collègue et ami Akiyoshi Nishiyama qui a fait un très bel article sur la façon comment au Japon les débats sur la nation japonaise intègrent toujours les rapports avec les Européens comme élément principal. Et donc, dans ces histoires, on saisit aussi le poids que l'histoire européenne a pour les gens hors de l'Europe.
Et on peut rappeler que le Japon est découvert pour les Européens par les Portugais au 15e ou 16e siècle.
Et voilà, donc l'historiographie européenne, pendant très longtemps, décrit comme des découvertes avec un regard eurocentrique. On a voulu l'intégrer, mais aussi pour avoir le regard envers. On peut pas proposer complètement une histoire connectée, mais au moins quelques regards sur cette connexion de l'histoire européenne avec le monde. Donc, à travers certaines études des cas, avec certains articles, un regard sur ces interconnexions qui font la richesse aussi de l'Europe, mais en même temps aussi font partie aussi des ces tensions et ces traumas de l'histoire européenne, parce que la colonisation, l'esclavage, ce sont des points aussi qui lient l'Europe au reste du monde et qui sont des parties assez problématiques, souvent très douloureuses, et pas uniquement pour les Européens, mais surtout pour les autres, où l'Europe s'est imposée aussi sur les autres populations. Donc, l'ensemble de ces histoires connectées sont à intégrer aussi si on veut parler de l'Europe et ses mémoires. Donc une mémoire, une histoire qui partageait en partie aussi avec les gens qui ne vivent pas sur le continent européen.
Alors Valérie Rousseau, ça a donné un très grand livre, j'ai lu 1400 pages, avec j'aurais pu être trois livres, hein, avec le premier ce serait appelé Présence du passé, le deuxième Les Europes, le troisième Mémoire Monde, c'est un peu ce que vient d'évoquer Jacob Vogel en quelques mots. Les Europes, c'est l'idée qu'il y a évidemment plusieurs Europes, plusieurs histoires, et puis la présence du passé, elle est un peu évidente, bien évidemment, pour un historien. Valérie Rousseau, qui a inventé le mot Europe, au fait?
Alors là, il y a plusieurs chapitres qui reviennent, notamment la question de la nymphe Europe. Là, je vous invite à lire l'ouvrage.
Mais nos auditeurs ne le liront pas.
Mais ça, je vais tenter de les convaincre. Non, mais l'idée, ce qui est intéressant dans votre question, qui est une question tout à fait fermée, c'est que l'idée de l'ouvrage, je pense, c'était d'être très inclusif avec des fenêtres ouvertes et pas tellement de définition en disant c'est ça l'Europe ou voilà qui a inventé, ou c'est plutôt assumer une forme de pluralité de voix dont on vient de dire que certaines avaient été muselées pendant des décennies parfois, une pluralité de sensibilité, une pluralité d'expérience surtout, de pratiques et d'émotions aussi. Donc à mon avis c'est plutôt une ouverture et une inclusion que des règles et des checklists et des définitions bien fermées et bien pensantes.
Alors, de ma sœur, évidemment, le livre Il fait un peu peur quand on l'a en main, on se dit mais jamais j'arriverai jusqu'au bout, mais c'est pas un livre qui est conçu pour être lu de la première à la dernière page, ça ne fonctionne pas du tout comme ça.
Non, on peut en faire tout à fait une lecture, comme dit Montaigne, à saut et à gambade, en passant selon ses goûts, selon ses intérêts, d'un chapitre à l'autre, d'un article à l'autre. On a choisi parce qu'on voulait justement cette forme ouverte que vient d'évoquer Valérie Rozou. On a choisi une multitude de formes dans les articles. Des articles longs, vraiment de fond, et puis des articles beaucoup plus courts, qui sont simplement des petites esquisses ou des éclairages, des mises en bouche pour découvrir et peut-être pour donner envie d'approfondir certains sujets. Donc on a les 149 articles très très exactement, qui ne sont pas tous de la même taille et qui ne sont pas tous non plus dans un même rapport, si vous voulez, aux questions de l'identité. On n'a pas du tout esquivé ou refusé une espèce de grande colonne vertébrale, les fondamentaux autour desquels tournent les questions d'identité. Vous avez évoqué tout à l'heure les traumas de l'histoire qui, évidemment, sont au centre de l'identité. On a des articles sur l'Europe des génocides, sur l'Europe des guerres, sur l'Europe de l'esclavage, l'Europe de la colonisation. Mais on a aussi, dans des articles plus courts, incité des auteurs à inspecter des sujets un petit peu plus insolites, plus expérimentaux, comme un article sur la Kalachnikov, par exemple, ou un article sur le djinn,
sur la coccinelle, la voiture,
pour voir à partir d'objets ou d'événements ou de personnages qu'on rattacherait pas directement au best-of ou aux fondamentaux d'identité européenne, ce qu'on peut dire, ce qui reste présent et ce qui peut servir aussi aux Européens et aux non-Européens de se définir par rapport à l'Europe.
Alors justement, Jacob Vogel ou Thomas Serrier, l'histoire de l'Europe, est-ce qu'elle est la somme des histoires nationales?
Non, je crois pas du tout ça, et c'est justement le parti pris de ces livres de vouloir faire une inspection de l'histoire européenne à partir des multiples perspectives qui ne se contentent pas uniquement à des cadres nationaux. Écrire histoire de l'Europe à partir de Helsinki est une autre chose que l'écrire à partir de Strasbourg, de Paris ou de Lisbonne ou même de Dakar. On a un très beau bel article de Mamadou Diouf sur Dakar et le millefeuille des mémoires précoloniales et postcoloniales dans la ville de Dakar. Et je crois que ces multiplicités des regards est très important pour les livres, pour sortir un peu de ce carcan de l'histoire nationale. Ça ne veut pas dire que la nation ne soit pas importante. J'ai moi-même signé un article sur nation et empire comme les cadres presque incontournables dans lesquels on avait eu l'habitude de parler de l'histoire en Europe. Mais je crois que c'est très important de montrer à quel point ces histoires sont connectées à l'intérieur de l'Europe, mais aussi avec l'extérieur, et donc avoir une autre perspective sur cette histoire européenne que uniquement à travers le prisme de l'Europe des nations.
Alors justement, Valérie Rozou, c'est très difficile hein, d'expliquer aux élèves, aux lycéens, aux collégiens l'histoire de l'Europe. D'abord, elle n'est jamais enseignée. Je me souviens, j'ai en mémoire qu'il y a eu une tentative d'écriture d'un manuel franco-allemand. Alors si on prend un exemple, et je m'adresse à vous qui êtes belge et donc pas concerné par le franco-allemand directement, Charlemagne, Napoléon, la Première Guerre mondiale ou la Seconde, c'est pas vécu de la même façon d'un côté du Rhin ou de l'autre.
Non, c'est pas du tout vécu de la même façon. Comme belge, c'est peut-être comme une évidence, peut-être plus que comme une allemande ou comme une française, dans le sens où on est dans un pays qui a été traversé, occupé, un carrefour en permanence, où il y a trois langues nationales, il y a au moins deux grosses mémoires collectives qui ne sont non seulement divergentes, mais parfois pas tout à fait compatibles. Et donc, il y a cette espèce de millefeuille mémorielle qui peut être vu comme quelque chose d'absolument inconfortable. Enseigner l'histoire de l'Europe est sans doute plus compliqué qu'enseigner des lieux de mémoire français très clairs, très ciblés. Donc il y a un aspect inconfortable, mais il y a aussi un aspect énergie, caractère vivant, caractère exploratoire, imprévu, surprise. S'il y avait une métaphore pour l'ensemble de l'ouvrage, ça serait pour moi la métaphore du jeu de piste. Je considère d'ailleurs la vie en tant que telle comme un jeu de piste, avec des détours, des petits rubans qui indiquent par où aller parfois, des surprises, des imprévus, des déconvenus. Et je trouve que l'histoire européenne peut être abordée de la même façon.
Ce que veut dire Thomas Serrier, que c'est pas un travail sur la mémoire, c'est un travail sur les mémoires, par définition, dont on n'est pas forcément conscient immédiatement, surtout lorsqu'on n'est pas historien.
La mémoire, les mémoires, c'est la question centrale qu'on a posée à nos auteurs. On est parti évidemment de l'idée de qu'on n'a pas esquivé, qu'on n'a pas refusé, de réfléchir à l'Europe de la mémoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on propose un travail simplement au singulier, c'est-à-dire qu'on impose au singulier cette réflexion, on aboutit obligatoirement à des réponses orthodoxes et dogmatiques, où on a une prédéfinition de l'Europe et on n'y intègre que les exemples qui y correspondent. Nous voulions au contraire montrer le travail des mémoires qui ne peut se faire. C'est Paul Ricoeur qui dit que le travail de mémoire, c'est un travail des mémoires. Le travail, la mémoire ne travaille que lorsqu'elle est défiée, confrontée à d'autres mémoires. Et ça nous semble évidemment un élément fondamental pour notre travail. Et donc nous avons demandé à nos 109 auteurs d'analyser ces enjeux de mémoire qui sont des enjeux de communauté, mais aussi de circulation. C'est pour ça que la réponse, finalement, ce que disait tout à l'heure Jacob Fogel, elle est très difficile. On peut pas dire que l'Europe, c'est simplement une juxtaposition des mémoires nationales. Il y a une circulation, il y a des imbrications, mais le cadre national reste évidemment très très important. Et en tant que directeur de cet ouvrage, ce qui m'a fasciné à la lecture des articles, c'est qu'il y a une sorte de reset après chaque article. On a l'impression que chaque auteur, nous avons tenu à les laisser libres de leurs réponses, chaque auteur, selon son thème, répond plutôt par le singulier ou plutôt par le pluriel, parce que sur certains thèmes culturels, comme Shakespeare ou comme Homère, la plupart des Européens se reconnaissent sans conflit, mais évidemment, il y a d'autres thématiques où les fractures et les inversions de mémoire sont plus importantes et restent dominantes.
Alors pour ne prendre un ou deux exemples, la Première Guerre mondiale, elle est vécue très différemment en France et en Allemagne, par exemple. Il y a pas en Allemagne de monuments aux morts sur chaque place de village où il y a la liste des soldats morts pour la France du côté français. Il y a pas l'équivalent en Allemagne, par exemple.
Oui, c'est Jay Winter, historien américain, qui a pris en charge cet article et qui réfléchit effectivement à toutes les échelles du plus biographique, du plus familial, du plus local au global, en pensant au Commonwealth, en pensant à l'Empire français, qui voilà, on a impliqué évidemment les troupes de ces empires sur les fronts européens, et qui réfléchit dans une perspective très très contemporaine aux mille manières dont s'européanise et se globalise et s'harmonise ces mémoires, tout en laissant tout de même visible les différences de tradition. Hein, et Jay Winter conclut plutôt en disant la mémoire n'est pas encore unifiée et loin de là.
Et un autre exemple que je mets, comme Fogel, d'ailleurs, je crois pas, évidemment, 1400 pages, je les ai pas toutes lues, je crois pas que vous l'abordiez Charlemagne, mais évidemment, bien des Français sont surpris d'apprendre que pour les Allemands, Charlemagne, c'est un Allemand, alors que pour un Français, évidemment, Charlemagne ne peut être que Français.
Je crois que les livres, et bon, c'est peut-être pas étonnant avec 1400 pages, va apporter beaucoup des choses étonnantes au lecteur. Et je crois que l'éditeur a pris aussi ses défis de publier un livre dont la moitié d'articles sont des traductions, ce qui est quand même quelque chose assez rare dans le monde éditorial d'aujourd'hui, d'avoir un tel livre d'une telle ampleur et reposant sur des voix et des auteurs si différents.
Un grand pari éditorial des éditions des Arènes. On va faire une courte pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
que vous allez suivre est une rediffusion.
Spotkania europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Comment en Europe résoudre le passé et déverrouiller l'avenir? Les mémoires européennes sont-elles la somme des mémoires nationales? Les Européens partagent-ils une communauté de destin? Une centaine d'historiens, de politologues, de philosophes, de linguistes européens ou non ont tenté de répondre en 1400 pages et près de 150 éclairages à ces questions et à quelques autres. Et cela donne Europa, notre histoire, aux éditions des Arènes. 39 €, c'est pas très très cher. Un ouvrage magistral qui fera date. Guerre, génocide, nazisme, totalitarisme, les souvenirs communs des Européens sont surtout négatifs, mais pourquoi placer l'Europe sous le signe du trauma plutôt que sous celui des valeurs et des croyances? Car notre histoire est aussi celle des Lumières, des droits de l'homme, du modèle social, celle aussi d'un continent qui a déployé une incroyable capacité à faire la paix. Quelle mémoire commune au pluriel pour quelle histoire en partage? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Thomas Serrier, maître de conférence à l'Institut d'études européennes à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, professeur invité à l'université Viadrina de Francfort-sur-Oder et co-directeur d'Europa, notre histoire aux éditions des Arènes, je le rappelle. Jacob Vogel, professeur au centre d'histoire de Sciences Po Paris et Valérie Rozou, politologue, philosophe, professeur à l'université catholique de Louvain en ligne de Bruxelles. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Romain Sebu.
Bonjour Daniel.
Vous êtes le correspondant de Courrier International à Varsovie et sur le thème de la difficulté d'écrire une histoire européenne, le quotidien polonais conservateur Rzeczpospolita critique violemment la maison de l'histoire européenne du Parlement européen qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines à Bruxelles. Un grand succès mais pas assez critique sur la période communiste pour un journal polonais conservateur comme Rzeczpospolita.
Oui, l'article formule trois critiques principales à l'égard de l'exposition qu'il qualifie de néo-marxiste. La première, c'est que l'exposition ne critique pas le communisme dans son ensemble, mais seulement le stalinisme, alors que les Polonais, en tout cas beaucoup d'entre eux, mettent sur un pied d'égalité à la fois le nazisme et le communisme dans son ensemble, à savoir la période stalinienne. Ensuite, en faisant démarrer l'exposition à la Révolution française, la maison de l'histoire européenne mettrait plutôt en avant une histoire sociale, matérielle, qui serait dépourvue de valeurs et de spiritualité. Et l'auteur fait remarquer que l'exposition accorde très peu de place à la fois à l'héritage gréco-romain, mais aussi et surtout aux racines chrétiennes de l'Europe, qui avait déjà été, il y a 10 ans, un reproche fait par beaucoup de Polonais au moment du débat sur la Constitution européenne. Enfin, l'auteur reproche aussi à l'exposition de manquer de substance, finalement, parce qu'elle se veut transnationale, elle est finalement assez hors sol, et ne montrerait pas finalement les histoires diverses de l'Europe, de ses nations. Donc plutôt que de présenter finalement une histoire diverse et plurielle, je cite l'auteur, elle chercherait à créer une version améliorée d'un Homo Sovieticus sans place pour la diversité.
Ces propos, cet argumentaire, ce débat, ça rappelle un petit peu celui qu'il y avait eu avant lorsqu'il avait fallu rédiger la Constitution européenne au tout début des années 2000.
Exactement, à l'époque déjà même on se demandait s'il fallait ou pas intégrer dans le préambule les fameuses valeurs chrétiennes de l'Europe, sauf qu'évidemment à l'époque la Pologne était réputée plus pro-européenne et donc ce débat avait un vernis plus pacifique, en tout cas plus argumenté, alors qu'aujourd'hui du fait de la politique menée par le PiS à Varsovie, l'opposition n'est pas seulement verbale mais elle paraît être beaucoup plus profonde entre une Europe occidentale qui serait devenue athée, voire complètement amoral, pour ne pas dire immoral, tandis que la Pologne se considère comme le gardien des vraies valeurs européennes, d'avoir des valeurs chrétiennes.
Merci Romain, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Thomas Serrier, on comprend bien là la difficulté qui a été la vôtre d'écrire une histoire de l'Europe.
Oui, c'est pour ça que dès la conception, nous voulions être une équipe pour réfléchir effectivement à ces contradictions que notre ouvrage soulèverait obligatoirement,
forcément,
et nous voulions non pas proposer d'un seul point de vue, d'un point de vue qui serait français, puisque le livre paraît en France, les deux principaux co-directeurs sont français, nous voulions directement, avec Jacob Vogel, avec d'autres, intégrer ces multiplicités
de contradictions.
Ces contradictions. Effectivement, nous nous sommes rendus compte de l'importance de l'ancienne fracture Est-Ouest, qui ressurgit peut-être avec plus de force aujourd'hui. Hein. Et l'autre thématique, effectivement, c'est cette thématique de là aussi qui ressurgit depuis quelques années en force, la thématique des racines chrétiennes de l'Europe, qui ont été du coup traitées dans des articles fondamentaux dans notre livre. C'est Étienne François, le co-directeur, qui a écrit un long article intitulé « Un seul Dieu », où il revient sur l'histoire des monothéismes, non pas pour en faire une histoire au premier degré, mais pour réfléchir à la manière dont les récits autour de ces monothéismes se sont construits en se marginalisant les uns les autres. On peut évidemment rappeler, par exemple, que la présence de l'islam en Europe, c'est 711 et la traversée de Gibraltar, et dans les Balkans, c'est le 14e siècle. Et il n'empêche que, effectivement, par la centralité de Rome, à un moment donné, à l'époque du Moyen Âge, l'Europe s'est confondue avec la chrétienté. Aujourd'hui, rappeler ça pour en faire un fondement de l'identité, c'est un intérêt, c'est la défense d'un intérêt politique particulier qu'il faut évidemment recontextualiser, relativiser, et dont il faut voir les enjeux.
Dans l'histoire contemporaine de l'Europe, il y a un mot clé, fondamental, c'est le mot réconciliation. Évidemment, réconciliation franco-allemande, mais pas seulement. L'Europe, c'est le continent de la guerre qui est à la recherche d'une plaie perpétuelle.
C'est pourquoi on a ouvert aussi notre volume avec les brûlures du passé, et je crois que nous tous, nous pouvons que remarquer à quel point ces différentes divergences antérieures, les guerres, mais pas simplement les guerres, mais aussi les contradictions au sein de l'Europe ont toujours était crucial aussi pour les Européens pour se définir eux-mêmes. Mais là aussi, peut-être je prends ma casque de responsable de la troisième partie, on voit aussi que là, dans les guerres et les brûlures, il ne faut pas intégrer uniquement les guerres au sein de l'Europe.
Elles ne sont pas simplement intra-européennes.
Ils étaient, et là, l'histoire du XXe siècle le dit très bien, c'était des guerres mondiales. Et déjà avant, avec les différentes guerres de colonisation, par exemple, toutes ces brûlures reviennent, ou ces brûlures au pluriel, reviennent toujours aussi quand on pense l'histoire européenne. Mais ce qu'on a voulu montrer aussi, et tout aussi bien dans la première partie que dans les autres aussi, qu'il y a toujours, cette formule est un peu habituelle maintenant, il y a en même temps aussi de l'autre côté. Et pour juste prendre l'exemple de l'histoire coloniale, qui bien sûr a donné lieu à beaucoup de controverses, et des problèmes aussi, il ne faut pas le nier, aussi ces côtés douloureuses de l'histoire coloniale. Il y a aussi une thématique qu'il faut reconnaître en tant qu'historien de la mémoire. Il y a un versant aussi de ce qu'on appelle en anglais le colonial nostalgia, et donc une nostalgie des temps coloniaux, et pas simplement d'un côté. Pas simplement des anciens colonisateurs, mais aussi ailleurs dans le monde. De sorte que dans beaucoup d'anciennes villes coloniales, ces villes coloniales ou la partie coloniale est devenue héritage mondial à travers l'UNESCO. Donc on voit très très bien à quel point cette histoire partagée, une histoire des guerres et des conflits d'un côté, mais aussi des partages et des circulations, a donné lieu à des histoires et des mémoires complexes. Et en tant qu'historien, c'est cette complexité qui nous intéresse.
Et en même temps, qu'est-ce qui unit les Européens quand on prend un Irlandais et un Grec, un Balte et un Portugais, finalement, qu'est-ce qu'ils ont en commun au regard de l'histoire, ces Européens?
Une question fondamentale. Et je me disais que peut-être que ce qui les unit, il y a un fil rouge. C'est peut-être plus un horizon d'attente qui peut être commun.
Une communauté de destin?
Oui, s'ils décident que. Mais en tout cas, un horizon d'attente qui peut faire sens pour eux. Si jamais on reprend un peu ce qu'on a pris dans ce qu'on appelle les récits qui ont été considérés comme fondateurs, en tout cas ici dans la première partie de l'ouvrage, il y a des notions comme la notion de réconciliation, par exemple. Faire le défi que la vie au quotidien avec l'autre qui a été un ancien ennemi, un ennemi héréditaire que l'on a haï pendant des décennies, bien faire le pari qu'on peut vivre en négociant avec lui plutôt qu'en le dominant. Donc la réconciliation, ça peut être un des horizons d'attente. La citoyenneté, les droits de l'homme, la lumière, la démocratie. Donc il y a toute une série comme ça de notions qui ne sont pas des notions figées, mais qu'on espère vivantes en tout cas, dont on a montré qu'elles suscitaient des débats. On le voit ici d'ailleurs avec la réaction du Courrier international en Pologne. Il y a un vrai débat public. On ne parle pas tellement d'histoire dans ce débat. On parle de maintenant et de l'avenir qu'on veut pour nos enfants. Et donc, on pourrait imaginer que le fil rouge est plus un fil que l'on jette vers l'avant à partir d'histoires qui, même si les événements ont été uniques et vécus, il n'y a pas de révisionnisme dans l'équipe, il n'y a pas non plus de gens qui sont complètement postmodernes non plus. Les expériences sont tellement différentes et éloignantes, j'allais dire. En tout cas, la fracture Est-Ouest, on l'a vraiment sentie. Il y avait un enjeu fondamental qui est de nouveau un enjeu d'avenir et qui est très bien résumé, je trouve, par une phrase de Bernanos qui disait dans un « Les enfants humiliés », il y a longtemps et pas tellement à la mode, mais qui disait ceci « L'avenir n'appartient pas aux morts, mais à ceux qui font parler les morts, disent pourquoi ils sont morts ».
Alors, Thomas Serrier, ça m'invite à vous poser un peu, quels sont les symboles que les Européens ont en commun, des hommes, des lieux, des paysages, des villes
Un peu tout ça, c'est surtout la deuxième partie, donc ce qui aurait pu être le deuxième volume.
Les Europes
qui revient sur cette question. Nous avons fait une sélection évidemment non exhaustive, c'est impossible, mais c'était le fil rouge de cette deuxième partie où nous avons des articles qui traitent d'Homère, de Churchill,
de Léonard de Vinci.
Les Lumières, c'est traité dans le premier volume sur les grands récits. Nous avons des villes aussi évidemment comme Rome. Relayé d'ailleurs ou doublé par un deuxième article qui réfléchit aux trois matrices des villes européennes que sont Athènes, Rome et Jérusalem. Et pour chacun de ces thèmes, nous avons réfléchi à la manière dont s'articulent et dont s'étagent les différentes échelles. Shakespeare, évidemment, ne serait-ce que pour la commercialisation, joue un très très grand rôle à Stratford-upon-Avon. C'est évidemment le grand auteur britannique, mais c'est aussi l'auteur le plus traduit dans le monde, par lequel...
Son auteur, les Italiens Dante, les Portugais Camoens, Cervantes pour les
bien
Espagnols...
Bien sûr, le jeu de l'unité et de la diversité, on le retrouve partout. Donc ce qui est intéressant, c'est que nos auteurs, me semble-t-il, avec un peu d'humour, ont traité de ces questions et donc de ce potentiel d'harmonisation, mais toujours avec les résistances possibles et puis les contradictions, les contre-propositions qui surgissent quand on impose telle ou telle figure.
Alors parmi les villes que vous avez retenues, il y en a une évidemment qui est essentielle, qui est un concentré d'histoire européenne à elle toute seule, c'est Berlin.
Oui, c'est Étienne François qui a écrit ce petit article, effectivement un article court qu'on lit...
Deux pages, peut-être
voilà,
trois.
Voilà, deux pages, trois pages, mais qui est un article excellent, qui s'appelle « Berlin, emblème du XXe siècle » et qui revient sur ce concentré d'histoire, toutes ces strates qui se sont succédées rapidement, qui permettent une lecture dans la ville de l'histoire européenne du XXe siècle, mais qui permettent aussi une réflexion sur... les volontés d'effacement. On a tout de même écrit ce livre « Europa, notre histoire » au moment où se reconstruit le château de Berlin en lieu et place du palais de la République de la RDA.
Il faut en dire un petit mot, qui lui-même
avait pris la place du château des Hohenzollern qui avait été dynamité en 1961 par le régime est-allemand. Donc on a là... Et on retrouve ça dans tous les articles finalement du livre, on a là une réflexion sur la manière dont les Européens ont pu jouer de leur passé. Il y a toujours un poids du passé, un répertoire des possibles dans le passé et un choix du passé, comme dit Marie-Claire Lavabre, la sociologue.
Alors on pourrait dire un mot sur les clochers, les beffrois, sur les places qui sont aussi des lieux de mémoire. La place de la Bastille pour les Français, la place Rouge pour la place Saint-Pierre, Maïdan. On pourrait parler d'énormément de choses. Je vous invite à lire plutôt le livre 39 € édition des Arènes. Ça peut être une idée de cadeau en fin d'année, je dis ça comme ça. Jacob Vogel ou Valérie Rosso, l'histoire de l'Europe, c'est aussi celle de ses frontières. Il y en a une que j'ai bien aimée, c'est la frontière qui délimite le monde du vin de celui de la bière. Alors, peut-être Valérie Rosso, en tant que Belge, est quand même a priori grande connaisseuse du monde brassicole. C'est évidemment intéressant de prendre cette frontière, le monde du vin, le monde de la bière, qui est aussi la frontière du monde catholique et du monde protestant. Expliquez-nous tout ça.
Valérie qui ne boit que de l'eau.
Vous allez être très déçu, voilà, exactement, vous allez être très déçu parce que je ne bois vraiment que de l'eau, du thé vert. Donc.
Moi, je vous demandais d'aller au-delà de vos habitudes.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est un de mes amis qui a rédigé l'article. Donc je pense que quel que soit l'article, dès qu'il est question de frontières et surtout de les dépasser, ça c'est une invitation que tout l'ouvrage donne, à partir de la question du vin ou de la bière, je crois qu'il y avait aussi un appel à l'humour, comme le disait Thomas Serrier. C'est que le sujet peut être tellement lourd, en fait. Il y a un auteur belge qui s'appelle Beauchot, qui a écrit de très belles choses, c'est un poète aussi, qui parlait du chapeau lourd du passé, le chapeau noir du passé, tellement lourd à porter, que c'était vraiment une énorme joie pour toute l'équipe de sentir de l'énergie et de l'élan qui venait d'articles comme le vin, la bière, mais bien d'autres, la pizza, le jeans, même la Kalachnikov qui apparemment n'est pas tellement gay comme sujet ou heureux, mais quand même, il y avait une petite argumentation intéressante et comme un exercice fascinant.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescales.
Carrefour de l'Europe, Europa, notre histoire, un ouvrage magistral aux éditions des Arènes. Nous sommes avec Thomas Serrier, qui est co-directeur d'Europa, notre histoire, avec Jacob Vogel, professeur au Centre d'histoire de Sciences Po Paris, avec Valérie Rosou, politologue et philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain et en ligne de Bruxelles. Alors, l'histoire de l'Europe ne s'arrête pas, mais il y a eu un moment où l'Europe a perdu un peu confiance en elle, parce qu'elle a cru pendant très longtemps que, par capillarité, justement, tout ce qui faisait sa force, les droits de l'homme, la démocratie, le respect des minorités, tout un tas de choses qui sont les valeurs de l'Europe, l'Europe sociale, etc., allait par miracle se transmettre par capillarité, un peu miraculeusement. C'est pas le cas, d'où un thème qui revient sans cesse, la perte de confiance, la décadence. Qui veut rebondir, Jacob Vogel?
Peut-être en rappelant qu'au début du 21e siècle, il y avait la citation du ministre américain qui parlait de la vieille Europe, et justement une division du continent entre une vieille Europe d'un côté et une nouvelle Europe
la vieille Europe, c'était l'Europe occidentale, en gros, voilà. Et la nouvelle Europe, c'était l'Europe qui venait juste, à partir de 2004, de rejoindre l'Union Européenne, l'Europe centrale et orientale.
Qui pour Donald Trump, était plus dynamique que la vieille Europe. Et notre article sur cette problématique a mis en évidence que cette façon de parler, cette discours sur la vieille Europe, en fait, est beaucoup plus ancien. Et peut reposer justement sur une vision qui notamment était exprimée au 19e siècle au regard de la rétrospection autour de la Révolution française, et justement parler de la vieille Europe, c'était parler des aristocrates et donc y opposer la nouvelle Europe, soit des travailleurs, soit des démocrates du 19e siècle. Et donc, il y a ces manières de parler aussi de l'Europe à travers son histoire qu'on a poursuivi et essayé à montrer pour nos lecteurs, parce que on croit que c'est quand même très important de comprendre comment, à travers donc ces éléments, ces moments, on cherche à chaque fois à donner un nouveau sens à l'Europe. Et donc, c'est aussi très intéressant que notre livre est publié à un moment où on peut, pourrait dire, au moment du Brexit, où l'Europe cherche un nouveau sens, et on pourrait nous dire que faire avancer l'interprétation, qu'on cherchait à donner une nouvelle vision pour l'Europe. Mais alors, en fait, le projet a été conçu à un moment où le Brexit n'était pas du tout.
Mais alors justement, le Brexit, c'est un échec de l'Europe ou un échec des Britanniques qui ne se sont pas intégrés à l'Europe?
Ben justement, ce qui est très intéressant quand on voit les discussions en Grande-Bretagne, aussi bien chez les pro-Brexit que les pro-Leave, les Remain, et à chaque fois, les consensus étaient là, que même ceux qui voulaient donc sortir de l'Union européenne disaient toujours on va pas sortir de l'Europe. Et donc justement cette référence européenne restait quand même très importante, et c'est dans ces sens-là aussi que nous voulons aussi comprendre notre entreprise, que justement c'est pas une entreprise autour et uniquement de mémoire de l'Union européenne, mais de l'Europe tout entière et sa façon de se penser elle-même et être pensée à travers le monde. Donc quelque chose qui soit plus ouvert que uniquement un projet politique sur lesquels on va discuter entre Européens, mais aussi avec nos voisins.
Alors le fait que l'Europe ne soit plus le centre du monde, Valérie Rousseau, vous vouliez intervenir?
Oui, juste intervenir. Par rapport à cette question de crise de confiance, décadence, etc., c'est tellement frappant quand on vit à l'étranger, donc ce qui a été mon cas pendant 10 ans, et ce qui est encore le cas maintenant, c'est que parfois on m'invite pour parler, et puis je demande de quoi voulez-vous que je vous parle. Parlez-nous d'Europe, que ce soit au Rwanda, que ce soit à Belgrade, que ce soit à Pékin en Chine, et chaque fois on me demande de parler du franco-allemand. Et donc des choses qui semblent complètement désuètes ici, en décadence, pas tellement intéressantes, continuent de fasciner.
Oui, parce que l'Europe, elle a cette capacité à fabriquer de la paix, et évidemment, à la surface du globe, ça impressionne tout de même.
Oui, en fait, ce qui est frappant, notamment quand je suis à Kigali, c'est que les gens, c'est comme des enfants, sans vouloir être néocolonial ici, mais quand des enfants sont fascinés par une histoire, ils nous demandent de la raconter plusieurs fois. Et parfois, je vais aux mêmes endroits, on me demande plusieurs fois le même thème de conférence, comme si les gens en face de moi me disaient, mais redites-nous que sur le plan historique et concret, c'est possible que des gens qui se haïssent puissent un jour devenir des partenaires.
Et pourtant, l'Europe n'est plus au centre du monde aujourd'hui, Valérie Rousseau.
Elle n'est plus au centre du monde, mais rien n'est figé. Donc, j'étais à Washington il y a quelques mois, et c'était une conférence sur Israël, sur le Proche-Orient, sur le processus de paix qui était complètement enlisé. Tous les diplomates et chercheurs américains sont venus vers les Européens, on était quelques-uns, en nous disant, c'est à vous de jouer, c'est dans vos mains maintenant. Donc, rien n'est figé.
L'identité européenne, Thomas Serdier, vous l'avez rencontrée au cours de ces 1400 pages?
On a rencontré beaucoup de discours et de pratiques qui prétendent proposer des identités européennes. Et donc, nous-mêmes, nous avons, avec la distance du scientifique, la distance de l'historien, plutôt essayé de proposer un balayage et un passage en revue de ces différents discours. Mais peut-être pour rebondir sur les dernières interventions, je dirais qu'autour de cette conscience que l'Europe n'est plus au centre du monde, là effectivement on pourrait voir un dénominateur commun. On a beaucoup réfléchi à ce mot d'ordre de la recherche post-coloniale, provincialiser l'Europe. Et peut-être effectivement on peut se dire que l'Europe, par rapport à d'autres grandes puissances, a le bénéfice aujourd'hui, c'est un peu une réponse dialectique que je vous fais, a le bénéfice d'avoir cette conscience de ne plus être au centre du monde. Et on trouve effectivement des réflexions qui sont des réflexions d'avenir sur le multilatéralisme, mais aussi sur les expériences partagées, les héritages partagés, les regards croisés, hérités de l'histoire, mais qui n'imposent plus obligatoirement des rapports de force et des rapports de domination.
Alors ce sera presque la question de fin, car on arrive au terme de cette émission. Finalement, qu'a laissé l'Europe dans l'histoire du monde, Jacob Fugel?
L'Europe a laissé beaucoup de choses dans l'histoire du monde. Et justement, À travers notre livre, on cherche aussi à saisir ces traces, ces héritages qui sont pas simplement celles de à l'intérieur du continent. Ce sont des traces, comme je disais tout à l'heure, déjà qui sont parfois douloureuses, mais qui sont très heureuses aussi. Donc en même temps, on a cette trace des Européens dans le monde, mais aussi les traces du monde en Europe. Et à saisir et à comprendre donc ces circulations, je crois que c'est très important. Regardez par exemple nos habitudes culinaires reposent classiquement aussi sur les circulations, les épices. On a un très bel article là-dessus. Mais aussi la pomme de terre, le pizza et tous ces habitudes alimentaires nous renvoient toujours à ces contacts que l'Europe a avec le monde. Et pas simplement donc un contact de domination. Il y avait ça dans l'histoire aussi, on en parle beaucoup aussi. Mais donc aussi ces rapports complexes d'échange qui... parfois a été oublié, et a oublié aussi au profit d'une vision de l'Europe conquérante. Et ça, cet double jeu, en fait, est, je crois, un des éléments les plus importants dans le livre, justement, à nous renvoyer à ces deux parties et ces deux éléments de l'histoire.
Eh bien, c'est vous, Jacob Vogel, qui aura eu le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Ludivine Amado. Pour écouter cette émission en balado-diffusion ou en podcast, c'est la même chose. RFI.fr ou les applis mobiles, mais gratuites de RFI. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités et sur le livre Europa, notre histoire, publié aux éditions des Arènes. Bien évidemment, on reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desescalles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais tout de suite, un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.